Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts d'Educa sur la numérisation dans l'éducation. Je m'appelle Benjamin Folland. Dans cette série, nous parlerons des principaux résultats de notre rapport du même nom, à savoir la numérisation dans l'éducation. Et nous résumons, une fois de plus, de manière légère ou disons plus digeste, le résultat de ces pavés des 400 pages pour la vie, l'enseignement et l'apprentissage dans les écoles en Suisse. Et pour commencer, nous nous penchons aujourd'hui sur l'une des questions centrales qui revient sans cesse dans les contextes des médias numériques à l'école, à savoir, à quoi ça sert? Parfois formulé de manière plus sceptique, est-ce que ça sert à quelque chose? Il s'agit donc aujourd'hui de déterminer ce que nous savons de l'effet de l'apprentissage avec des médias numériques. Est-ce qu'ils peuvent aider à apprendre? Et si oui, comment et dans quelles conditions? Mais comme il s'agit du premier podcast sur le rapport, commençons par les commencements.
Educa, agent novateur.
Ce podcast s'inspire du rapport « La numérisation dans l'éducation ». Le rapport a été mandaté par la Confédération et les cantons à l'agence spécialisée Educa. Et notre tâche était relativement simple, du moins à première vue. Premièrement, résumer ce qu'on sait de l'état et des effets de ces processus continus appelés numérisation dans et sur l'éducation. Et deuxièmement, dites-nous ce que nous devrions savoir à ce sujet, mais que nous ne savons pas. Les réponses à ces questions dépendent en grande partie de ce qu'on entende par ces termes de numérisation, qui peut être interprété de manière très flexible pour dire cela gentiment. Le rapport commence donc par poser une définition de travail qui considère que la numérisation dans l'éducation consiste en l'utilisation des appareils et des contenus numériques pour l'enseignement, l'apprentissage et l'organisation des écoles. C'est une vision relativement étroite, presque réductrice, mais finalement exploitable. Et une définition qui s'appuie sur les définitions de plusieurs dizaines d'enquêtes menées sur les mêmes sujets dans d'autres pays européens. Peu importe la façon dont nous comprenons ces termes, nous pouvons dire avec certitude que la numérisation touche la société, l'économie et les gens. De la facture numérique à l'identité électronique, en passant par le vote électronique et la cybersécurité. Et il ne fait aucun doute que des domaines importants de notre vie aujourd'hui passent en grande partie par le moyen numérique. De travail aux achats, en passant par la vie sociale. Ce n'est donc pas vraiment surprenant que les technologies, les contenus et les offres numériques concernent également le système éducatif. En plus de l'importance générale pour l'économie et la société, il y a deux raisons spécifiques pour lesquelles la numérisation est en train de bouleverser le secteur d'éducation. Premièrement, ces développements modifient naturellement les exigences posées aux élèves sortant de l'école et donc aux écoles. Les élèves doivent avoir des notions d'informatique, idéalement savoir programmer et bien sûr utiliser des programmes courants. Mais ils doivent aussi comprendre les conséquences sociales, économiques et bien sûr écologiques de la diffusion croissante des technologies numériques dans le domaine de la vie et du travail. Et ils doivent être en mesure de participer à un tel monde de manière informée et responsable. Par exemple, en étant en mesure d'identifier les fausses nouvelles. Deuxièmement, selon la perception, on s'attend ou on craint que l'utilisation des contenus numériques pour l'enseignement, l'apprentissage et l'organisation des écoles soit aussi transformatrice que cela a été pour les processus et les structures du commerce de détail, par exemple. On espère en particulier que l'utilisation de ces appareils et médias contribue à améliorer les performances d'apprentissage en général et à réduire les inégalités existantes. Par exemple, grâce à ces technologies, des contenus qui étaient jusqu'à présent statiques deviennent soudain interactifs et peuvent être explorés. Les positions des planètes du système solaire peuvent être suivies à l'écran en temps réel, les planètes et les étoiles peuvent être zoomées et les informations supplémentaires peuvent être obtenues d'un simple clic. Ou bien on n'apprend plus les calculs mentaux en résolvant simplement des problèmes, mais en jouant en jeu dans lesquels on fuit un monstre. Et pour chaque étape, il faut résoudre un problème de calcul. Il est également vrai que l'individualisation des offres d'apprentissage, c'est-à-dire ce qui est appris, comment et dans quel ordre, est rendu possible par ces technologies d'une manière qui n'aurait pas du tout été envisageable de la même manière avec des ressources existantes. Ce sont ces changements dans les exigences et cette perspective de possibilités qui ont déclenché ces dernières années une sorte de fièvre acheteuse parmi les cantons et les communes. Une question centrale est donc de savoir si ces espoirs sont justifiés. Et il est passionnant de constater que la réponse scientifique à cette question est loin d'être unanime.
Educa, agent novateur.
D'une part, il existe une littérature abondante qui montre que les élèves qui utilisent plus souvent des ordinateurs, des tablettes ou des ordinateurs portables en classe obtiennent de moins bons résultats scolaires que les élèves qui n'utilisent pas ces appareils à l'école. Beaucoup de ces études sont basées sur des données dites transversales, c'est-à-dire des données qui recueillent des informations sur un grand nombre d'élèves à un moment donné. Les données de l'enquête PISA sont un exemple classique de ce type de données transversales. Et en effet, dans les données de l'enquête PISA, les élèves qui utilisent des ordinateurs à l'école obtiennent des résultats dramatiquement inférieurs à ceux des élèves qui ne les utilisent pas, et c'est dans toutes les matières examinées. Pour les mathématiques, par exemple, les différences de performances entre les deux groupes correspondent en Suisse à près de 3/4 d'une année scolaire. Est-ce que cela signifie que ces technologies réduisent également les performances d'apprentissage? Que l'argent de ces programmes est jeté par la fenêtre? Non, du tout. En effet, il est au mieux faux et au pire délibérément trompeur de déduire d'une telle comparaison entre utilisateurs et non-utilisateurs que l'utilisation des terminaux numériques diminue les performances scolaires. Pourquoi? Parce qu'une interprétation causale de ces liens repose sur l'hypothèse manifestement fausse qu'il n'existe aucune autre différence notable entre les deux groupes. En particulier, aucune qui puisse expliquer les différences de performance. Mais il y en a. Nous savons par exemple que les enseignantes et enseignants qui utilisent des tels ordinateurs en classe sont souvent plus jeunes et disposent donc de moins d'expérience en matière d'enseignement. Mais nous savons surtout que ces appareils sont souvent utilisés comme moyen d'encourager et de motiver les élèves les plus faibles et les moins motivés. En d'autres termes, nous ne savons pas si les corrélations qui apparaissent par exemple dans les données PISA sont dues au fait que l'apprentissage à l'aide d'ordinateur nuit aux résultats scolaires ou si les personnes qui ont des mauvais résultats scolaires utilisent tout simplement plus souvent des ordinateurs. Mais il existe une deuxième série de publications scientifiques qui peuvent apporter une meilleure réponse. Il s'agit des études expérimentales. Celles-ci sont de la référence scientifique absolue. Dans l'un des prochains épisodes, nous nous pencherons plus en détail sur ces questions méthodologiques et nous tenterons de comprendre ce qui fait une bonne étude empirique et comment la reconnaître. Et ces études expérimentales montrent très bien que toutes les technologies et toutes les approches pédagogiques ne sont pas toujours aussi efficaces pour soutenir le processus d'apprentissage. Par exemple, il est relativement clair qu'il ne sert à rien de distribuer les appareils aux écoles et d'espérer que les écoles sauront ce qu'elles doivent ou veulent faire avec ces appareils. Il arrive souvent que ces appareils ne sont pas utilisés. D'autre part, les applications qui adaptent le parcours d'apprentissage aux compétences des élèves, ce que l'on appelle le système de tutorat intelligente, ont un effet clairement positif, du moins en moyenne. Le jeu éducatif semble également avoir un effet positif sur l'apprentissage, du moins en moyenne. Et derrière cette petite restriction, en moyenne, se cache un grand « mais ». La raison est que la dispersion des résultats de ces études est énorme. Même au niveau des méta-analyses, c'est-à-dire lorsque de très nombreuses études sont regroupées et analysées, les effets constatés dans la littérature vont de remarquables à catastrophiques. Enfin, cette dispersion est un signe relativement clair de l'existence de différences de qualité considérables entre des produits techniquement similaires. Cela signifie qu'il existe des systèmes de tutorat intelligents qui améliorent effectivement l'apprentissage. Il existe également des systèmes de tutorat intelligents qui ne le font pas. Il existe des jeux d'apprentissage qui aident réellement à acquérir des compétences techniques et d'autres qui ont tendance à distraire. Le problème crucial, c'est qu'il est impossible, en tout cas jusqu'à présent, de déterminer à laquelle de ces deux catégories appartient un produit avant de l'utiliser dans les écoles. Et c'est alors un grand défi de répondre à des questions très pragmatiques comme « Devons-nous acquérir cette application, cet outil pour nos écoles ?» Et si oui, lesquelles ? Ce qu'il faudrait en fait, c'est une évaluation de l'efficacité au niveau des produits individuels. Et c'est quelque chose que nous ne savons pas du tout faire jusqu'à présent. Et tout cela complique encore si l'on considère que l'effet d'une technologie telle que mesurée dans l'environnement relativement bien contrôlé d'une expérience, cet effet peut généralement être appliqué qu'avec des réserves à un système plutôt chaotique comme les quotidiens scolaires. Par exemple, est-ce que les enseignantes et enseignants savent vraiment ce qu'ils doivent faire avec ces trucs? Quelle est la valeur qu'ils accordent aux ressources numériques? Mais aussi, bien sûr, quelle est l'importance que les autres parties prenantes de l'école, les directions de l'école et les parents par exemple, accordent à ces ressources pour l'apprentissage? Et là aussi, le problème est que nous avons certes une idée générale de facteurs qui pourraient jouer un rôle, mais nous ne savons pas vraiment comment ces facteurs interagissent. Pour résumer, je dirais que la réponse à la question « Les ressources numériques est-elle ou nuisent-elles à l'apprentissage ?» est en écrasant, ça dépend. Cela dépend d'une part de la technologie, du produit concret lui-même, mais cela dépend de si et quelle exigence une intégration de ces produits pose aux compétences du corps enseignant ou à l'aménagement du reste de l'enseignement. Tout dépend de quelle manière ces exigences divergent de la pratique vécue. En bon français, c'est compliqué. Et pourtant, la littérature le montre très clairement. Même si c'est compliqué, si ces exigences sont remplies, les ressources numériques sont une autre flèche efficace dans les carquois du corps d'enseignants et des écoles. Une possibilité d'aider les élèves à devenir des membres autonomes, compétents et productifs de la société. Nous ne savons pas encore de manière définitive quelles sont ces exigences. Cela reste donc compliqué dans un avenir prévisible et passionnant. Notre série de podcasts est également passionnante. Nous allons notamment aborder la question de savoir ce que nous savons des conséquences de l'utilisation de médias numériques sur la santé et tenter d'évaluer la position de la Suisse en comparaison internationale lorsqu'il s'agit de la numérisation dans l'éducation. D'ici là, merci pour votre écoute.
Educa, agent novateur.